de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. La Thaïlande prolonge le statut d'urgence du Covid-19 jusqu'à la fin du mois d'août. Le Japon approuve la dexaméthasone en tant que médicament Covid-19. La Corée du Sud signale à nouveau des dizaines de nouveaux cas de Covid-19. Mer de Chine méridionale chaude, navires australiens rejoignent les États-Unis et le Japon. Le ministre indonésien des entreprises publiques, Erick Thohir, signe un protocole d'accord sur le placement de travailleurs handicapés dans les entreprises publiques. L'Indonésie lance une page d'information, la consultation pour les investisseurs étrangers. Et le Qatar ouvre des vols, les restrictions sont assouplies. Mon cher auditeur, voici les nouvelles incomplètes. La Thaïlande prolonge le statut d'urgence du Covid-19 jusqu'à la fin du mois d'août. Le gouvernement thaïlandais prolongera le statut d'urgence de l'épidémie de Covid-19 jusqu'à la fin du mois d'août, tout en maintenant un certain nombre de mesures de sécurité pour freiner la propagation du coronavirus, annoncé mercredi le haut responsable. La décision a été annoncée après près de 2 mois sans transmission locale en Thaïlande et certaines parties ont remis en question l'urgence de la publication du décret sur le statut d'urgence. Somsak Rongsita, secrétaire général du Conseil national de sécurité, a déclaré qu'un décret ou bien le statut d'urgence était toujours nécessaire car il rouvrait le pays pour plus de réunions d'affaires et de tourisme pour stimuler l'économie. Il a également ajouté que les travailleurs médicaux, y compris les médecins, ont demandé que le statut d'urgence soit prolongé. Le Japon approuve la dexaméthasone en tant que médicament Covid-19. Le ministère japonais de la Santé approuve le stéroïde dexaméthasone bon marché et abordable comme deuxième médicament de Covid-19. Les stéroïdes dexaméthasone ont été testés au Royaume-Uni et peuvent que ces médicaments réduisent le taux de mortalité chez les patients hospitalisés. Le ministère a répertorié la dexaméthasone comme une option de traitement Covid-19 avec Remdesivir, un médicament antiviral, dans une récente révision du manuel qu'il a publié. La révision a été largement rapportée par les médias japonais mercredi 20 juillet. Dans les résultats annoncés en juin, des essais menés par des chercheurs au Royaume-Uni ont prouvé que la dexaméthasone était le premier médicament à sauver la vie de patients atteints de COVID-19, ce qui, selon les scientifiques, constitue une avancée majeure dans la gestion de la pandémie du coronavirus. La Corée du Sud signale à nouveau des dizaines de nouveaux cas de COVID-19. Un responsable sud-coréen a déclaré que l'épidémie de COVID-19 dans le pays avait été contrôlée il y a quelques jours. Cependant, selon l'autorité sanitaire, la situation s'est inversée avec 63 nouveaux cas confirmés de transmission locale et d'infections importées mercredi 22 juillet. Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré qu'au moins 36 nouveaux cas provenaient de la zone métropolitaine densément peuplée de Séoul, avec environ la moitié des 51 millions de personnes vivant dans le pays. Cependant, il n'y a pas de détails sur ce montant. Le Centre coréen de contrôle des maladies, KCDC, n'a pas immédiatement confirmé les chiffres, y compris un nouveau groupe infecté trouvé dans l'unité de troupes de première ligne à Pocheon, au nord de Séoul. Cet endroit a signalé au moins 13 soldats positifs COVID-19. Le dernier rapport indique que 29 des nouveaux cas étaient des transmissions locales et 34 autres avec des arrivées internationales, alors que le virus continue de se propager en Asie, aux États-Unis, etc. Mer de Chine méridionale chaude, navires australiens rejoignent les États-Unis et le Japon. 5 navires de guerre australiens organisent des exercices militaires conjoints avec les flottes de la marine américaine et japonaise dans les eaux au large des Philippines en mer de Chine méridionale. Cet exercice conjoint a été réalisé lorsque la Chine a relancé une série de manœuvres provocantes qui ont de nouveau tendu la situation dans la mer de Chine méridionale. La flotte australienne dirigée par le HMAS Canberra a rejoint la flotte d'attaque américaine composée du porte-avions USS Ronald Reagan et d'un destroyer japonais pour mener des exercices trilatéraux avant une simulation de guerre conjointe à grande échelle à Hawaï. Le commandant de la flotte australienne, Michael Harris, a déclaré que l'exercice était une opportunité de travail, même chose avec les États-Unis et le Japon. C'est ce qu'a dit Michael Harris dans un communiqué publié par le ministère australien de la Défense, cité par ABC News mercredi 20 juillet. Au cours des 2 prochains jours, la marine des 3 pays mènera divers exercices militaires visant à maintenir la région Indo-Pacifique libre et ouverte. Le ministre indonésien des entreprises publiques, Erick Thohir, signe un protocole d'accord sur le placement de travailleurs handicapés dans les entreprises publiques. Le ministre indonésien des entreprises publiques, Erick Thohir, et le ministre de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, ont signé un protocole d'accord sur la formation professionnelle et le placement des travailleurs handicapés dans les entreprises publiques. Cela a été dit mercredi par le ministre Erick Thohir à Jakarta. Selon Eric, le ministère de la main-d'œuvre et le ministère de BUMN continuent de travailler ensemble pour assurer non seulement des installations, mais aussi des alignements pour les travailleurs handicapés. À la même occasion, la ministre de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, espère que les entreprises publiques, en tant que l'un des moteurs de l'économie nationale, leurs existences sont nécessaires pour atteindre l'objectif de prospérité de la population. Sur la base de la loi numéro 8 de 2016, le gouvernement garantit le respect et l'égalité des droits des personnes handicapées à obtenir des emplois qui correspondent à leurs intérêts, talents et capacités ou compétences. L'Indonésie lance une page d'information, la consultation pour les investisseurs étrangers. Le gouvernement de l'Indonésie, par l'intermédiaire de l'ambassade d'Indonésie à Singapour, a lancé une page de centre d'information et de consultation pour les investisseurs étrangers afin qu'ils puissent contacter directement les parties prenantes concernées pour discuter des plans d'affaires dans le pays. La page du centre d'information et de consultation des affaires InvestIndonesia.sk a été inaugurée par la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi. L'ambassadeur de la République d'Indonésie à Singapour, Igede Ngurah Swajaya, témoigné par les gouverneurs de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, et le chef du Conseil de coordination des investissements, Bahlil Lahadelia, lors de l'événement annuel de l'ambassade d'Indonésie à Singapour, The Third Indonesia Investment Day, qui s'est tenu virtuellement cette année en raison de la pandémie COVID-19. La page InvestIndonesia.sg a été créée en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à Singapour, le ministère des Affaires étrangères, la Banque Indonésia, le Conseil de coordination des investissements et le gouvernement local. Le Qatar ouvre des vols, les restrictions sont assouplies. Le Qatar a assoupli les restrictions régionales qui visaient auparavant à contrôler la propagation du coronavirus mercredi 22 juillet. Le nouvel arrangement permet aux citoyens et aux titulaires de permis de séjour permanent de voyager à l'étranger et de revenir à tout moment. L'assouplissement de la quarantaine régionale permettra également de faire revenir les titulaires de permis de séjour au Qatar qui sont à l'étranger. Mais il ne peut être mis en œuvre qu'à partir du 1er août. Le bureau de communication du gouvernement du Qatar a déclaré que l'arrivée de visiteurs en provenance des pays à faible risque était toujours tenue d'effectuer un test de coronavirus à l'aéroport. Selon le rapport de l'agence de presse gouvernementale, QNA, ceux qui viennent doivent signer un accord formel pour se conformer à la quarantaine à la maison pendant une semaine. Pendant ce temps, les visiteurs de pays à faible risque qui ont obtenu des certificats sans COVID auprès de centres de tests accrédités, dans les 48 heures suivant leur voyage, n'ont pas besoin de passer un test à l'aéroport. Bon, cher Gitar, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, la gouvernance des entreprises publiques doit être bonne pour se mondialiser. Le ministre des entreprises publiques, Erick Thohir, et la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, ont signé vendredi un protocole d'accord concernant la coopération en diplomatie économique pour soutenir les entreprises publiques de se mondialiser ou BUMN Go Global. Le ministre des entreprises publiques, Erick Thohir, a souligné que le programme de diplomatie économique des entreprises publiques de se mondialiser ou BUMN Go Global collabore avec le ministère des Affaires étrangères n'était pas seulement le style. Le programme des entreprises publiques de se mondialiser, selon lui, a deux objectifs. Premièrement, les produits de BUMN qui sont actuellement reconnus par de nombreux pays seront largement commercialisés. Ensuite, le deuxième objectif est d'améliorer la chaîne d'approvisionnement en Indonésie. Les entreprises publiques de ce mondialisé ou BUMN Go Global a un rôle stratégique dans le développement et l'expansion de la commercialisation des produits des entreprises publiques. Un exemple est la production de vaccins réalisés par Biopharma et les produits de l'industrie de la défense qui ont acquis une reconnaissance dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. À l'heure actuelle, un certain nombre d'entreprises publiques disposent déjà de réseaux opérationnels à l'étranger, comme la banque et la construction. Trois banques publiques, à savoir BNI, BRI et Banque Mandiri, ont plusieurs succursales à l'étranger, tandis que PT Semen Indonesia Persero dispose d'une unité opérationnelle au Vietnam. Dans le secteur de l'énergie, PT Pertamina a des zones opérationnelles dans 12 pays à travers Pertamina International d'Exploration et de Production. Dans le domaine de la construction, PT Wijaya Karya, un entrepreneur national chevronné, a travaillé sur de nombreux projets à l'étranger. Le nombre d'entreprises publiques qui ont déjà des réseaux opérationnels à l'étranger est encore relativement faible par rapport au nombre total d'entreprises publiques qui atteignent plus de 100 entreprises publiques actuellement existantes. Ainsi, avec ce programme de BUMN Go Global, on espère que plus d'entreprises publiques feront des efforts pour développer leurs activités à l'étranger. Pour réaliser BUMN Go Global, le ministère de BUMN doit convaincre BUMN sain et performant et contribuer de manière significative aux revenus de l'État. À partir des données de 2018, les revenus totaux de 182 entreprises publiques ont atteint 210 millions rupiah, dont 76% provenaient de 15 entreprises publiques. Cela signifie que de nombreux BUMN n'ont pas encore fonctionné de manière optimale. Le ministre des Entreprises publiques, Erick Thohir, doit immédiatement achever les efforts visant à améliorer la gouvernance de toutes les entreprises publiques afin qu'elles soient saines et en règle. Seuls BUMN sains et bons sont capables de se développer et d'être compétitifs sur la scène mondiale. Le soutien du ministère des Affaires étrangères est très important dans l'effort de réalisation de BUMN Go Global. Le ministère des Affaires étrangères doit placer des diplomates fiables et confier des missions plus concrètes aux chefs de représentants indonésiens dans les pays étrangers pour soutenir le programme de BUMN Go Global. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui, le 23 juillet. Serge Ritard, le 23 juillet, la journée nationale des enfants. En Indonésie, on commémore la journée nationale des enfants tous les 23 juillet conformément au décret présidentiel de la République d'Indonésie numéro 44 de 1984 du 19 juillet 1984. La détermination de cette date était basée sur l'adoption de la loi sur la protection de l'enfance le 23 juillet 1979. On a organisé la commémoration de la Journée nationale des enfants du niveau central au niveau régional pour faire l'Indonésie un pays amical pour les enfants. La commémoration de la Journée nationale des enfants est un moment pour susciter le soin et la participation de tous les Indonésiens de respecter, de valoriser et de garantir des droits de l'enfant. Chers amis, passons maintenant à l'événement de 23 juillet 2001. On a inauguré Megawati Soekarno-Putri comme président de l'Indonésie. Megawati Soekarno-Putri est la première femme présidente indonésienne. Elle est devenue présidente après que l'Assemblée consultative du peuple a tenu une session extraordinaire de l'Assemblée consultative du peuple en 2001. La session extraordinaire de l'Assemblée consultative du peuple s'est tenue pour répondre à la décision du président Abdurrahman Wahid qui a gelé l'Assemblée consultative du peuple et le Parlement national de l'Indonésie et le parti Golkar. On a inauguré Megawati le 23 juillet 2001, auparavant de 1999 à 2001, Elle était vice-présidente du gouvernement du président Abdulrahman Wahid. Elle a marqué la période du gouvernement de Megawati avec le renforcement de la consolidation démocratique en Indonésie. Pendant son règne, elle a tenu des élections présidentielles directes. En général, on considère que c'est l'un des succès du processus de démocratisation en Indonésie. Chers amis, on termine maintenant à l'événement du 23 juillet 2005, l'attentat à la bombe à Sharm el-Sheikh. Le 23 juillet 2005, un attentat à la bombe a eu lieu dans la ville touristique de Sharm el-Sheikh, en Égypte, située à l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï. 88 personnes ont été tuées à cause de l'attaque. La plupart des victimes étaient égyptiennes et plus de 200 autres ont été blessées. Cette attaque est devenue l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire égyptienne. L'attaque a eu lieu le jour de la révolution égyptienne, une fête nationale en Égypte. Cela faisait partie d'une stratégie visant à perturber l'économie égyptienne en s'attaquant à l'industrie de tourisme. Mon cher Gilles, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et un petit titre. La réhabilitation des forêts et des terres en amont surmonte les inondations dans le nord de Luwu. La restauration des terres ouvertes en amont avec la réhabilitation des forêts et des terres est une solution pour anticiper les crues soudaines à Luwu Nord, Sulawesi Sud. Comme indiqué par le directeur de la planification et de l'évaluation du contrôle des bassins versants du ministère de l'Environnement et des Forêts, Saparis Sudaryanto, lors d'une conférence de presse sur le thème « Inondation à Luwu Nord en province Sulawesi Sud ». La conférence de presse a été organisée virtuellement par le chef du Centre des données d'information et de communication sur les catastrophes de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, dimanche 19 juillet. La crue soudaine qui a frappé Luwu Nord en province Sulawesi Sud la semaine dernière a fait 38 morts, 10 disparus, 58 blessés et plus de 14 000 déplacés. La réhabilitation des forêts et des terres est l'une des deux recommandations proposées par le ministère de l'Environnement et des forêts pour la gestion des crues soudaines à Luwu Nord, Sulawesi Sud, alors que d'autres recommandations concernent l'application de la loi relative au défrichage des terres dans les zones forestières protégées. Saparis Sudaryanto a déclaré que les deux recommandations étaient urgentes en anticipant qu'une catastrophe après une catastrophe à cet endroit ne se reproduirait pas. Selon Saparis, les crues soudaines qui ont frappé lundi 6 sous-districts de Luwu Nord ont été causées par des facteurs naturels et humains. Le facteur naturel est causé par des forêts précipitations avec des intensités plus de 100 mm par jour, tandis que la pente en amont du bassin de la rivière Baliase est très raide, alors que le niveau de la consolidation des terres en miettes avec une consistance lâche. Ces conditions indiquent que le niveau de remembrement des terres a tendance à être faible et en frac. Les caractéristiques du sol et des roches sur des pentes abruptes provoquent un potentiel de glissement de terrain élevé qui, à son tour, forme un réservoir naturel, ce qui facilite l'éclatement en cas d'accumulation excessive d'eau. Cependant, en termes de facteurs humains, il y a du défrichement des terres en amont du bassin de la rivière Baliase et l'utilisation massive des terres sous forme de plantations de palmiers à huile. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Makin dalamku jatuh kepadamu.
All I think about love, all I can think is your love.
Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa
cinta itu kamu, cinta itu kamu.
The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so high.
So blue, 'cause you know my.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Tub de la grotte de Kalisuci à Gunung Kidul, Yogyakarta. La grotte de Kalisuci est un objet touristique naturel à Gunung Kidul, Yogyakarta, qui est un rafting et des tubes de grotte. Cette zone de grotte de Kalisuci est la première tube de grotte en Indonésie. Cette destination touristique offre la beauté et la sensation. Les tubes de grotte sont une combinaison de spéléologie et de rafting. Cette activité touristique et l'aventure en utilisant pneus tubes antérieurs. La zone touristique de Kalisuci est située dans le village de Pacarjo, district de Semanu, la région de Gunung Kidul, Yogyakarta. Pour vous y rendre, vous devez payer un billet d'entrée de 80 000 roupies. Lorsque vous allez faire des tours de grotte, chaque participant est équipé d'une bouée et d'un casque comme dispositif de sécurité. La route des tours de grotte à Kalisuci est assez longue, soit environ 700 mètres le long de plusieurs endroits, à savoir Luang Glatik, la grotte de Glatik et Luang Gelung, d'une durée de 1,5 heures jusqu'à 2 heures. Les rivières qui coulent dans ces grottes ont des largeurs différentes, entre 5 jusqu'à 10 mètres, avec les eaux très claires. Pendant le rafting, vous pouvez voir la beauté des ornements de la grotte, tels que les stalactites et stalagmites, et aussi les écosystèmes de la grotte, tels que les arbustes et les chauves-souris qui pendent sur le toit de la grotte. Regarder la vie dans cette grotte rendra votre voyage plus mémorable, notamment dans l'obscurité totale. Seule une lampe de poche sera la lumière principale. Pour faire des tours de grotte à Kalisuci, vous ne pouvez pas faire n'importe quand. Il existe certains des meilleurs moments pour les tours de grotte pour éviter tout danger. Le bon moment pour les tours de grotte à Kalisuci, le début de la saison sèche et le début de la saison des pluies. Le tour de la grotte de Kalisuci est l'un des géosites de Gunung Sewu. Le géoparc de Gunung Sewu est une superficie d'environ 1802 km² et contient 33 géosites. La montagne de Sewu au Gunung Sewu a également été inclus dans Global Geopark Network, au réseau mondial Asie-Pacifique, approuvé par l'UNESCO à Sanin Kaigan, le Japon, en 2015. Gunung Sewu est l'un des 120 géoparcs mondiaux de 33 pays. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleur en formant sur Sisusan la lumière UVC pour éradiquer les virus fabriqués par l'IPI. Le besoin de stérilisation de la pièce est de plus en plus important pour supprimer la chaîne de distribution du COVID-19. Le Centre de recherche en électronique et télécommunication de l'Institut indonésien des sciences LIPI a développé le Sisusan, soit Simple Smart UVC Sanitizer, un stérilisateur d'ambiance à base de UVC qui peut être contrôlé via des applications sur les téléphones intelligents. Sisusan peut définir la cible du virus à éradiquer et planifier la stérilisation via une application basée sur Android. Sisusan est également équipé d'un système de sécurité pour les humains qui l'entourent. Avec une conception simple, Sisusan peut être utilisé pour la stérilisation dans les établissements de soins de santé, les bureaux, les écoles et les ménages. Sisusan est quelque peu différent d'un robot de stérilisation parce que l'appareil développé par l'IPI doit être déplacé manuellement d'une pièce à l'autre. Alors que les virus de stérilisation par robot peuvent se déplacer d'une pièce à l'autre et être mieux automatisés. Sisusan est basé sur la lumière UVC avec une longueur d'onde de 254 nanomètres et est classé comme dangereux s'il est exposé à la peau et aux yeux. Par conséquent, lorsque Sisusan est utilisé, l'utilisateur doit s'assurer qu'il n'y a personne dans la pièce. Par conséquent, le fonctionnement de cet outil utilise l'application. Ainsi, l'opérateur contrôlera plus tard Sisusan via l'application, que ce soit dans une autre pièce ou même derrière le mur de la pièce à stériliser. La durée du processus d'irradiation dépend du type de virus. Une fois que Sisusan a terminé la stérilisation, il y aura un effet post-irradiation. Par exemple, il y aura des odeurs désagréables dues au mélange avec la réaction de l'air dans la pièce. À l'heure actuelle, Sisusan a terminé de subir un test de sécurité électrique au Centre de recherche sur la technologie de test LIPI et attend le test d'efficacité du virus SARS-CoV-2 au laboratoire de biosécurité LIPI niveau 3. Sisusan sera fabriqué en collaboration avec PT Gerling Utama Mandiri. Plus tard, Sisusan sera commercialisé à un prix relativement abordable, de sorte qu'il puisse être utilisé pour les besoins des ménages, des bureaux et des centres de santé. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Ah, musim cinta bersemi. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. Alam mimpi hingga waktu terhenti. Ku ingin kau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter un programme de magazine musical. Vous êtes avec moi Audrey. Cher ami, cette édition vous présente une chanson intitulée Berharap Tak Berpisah. Berharap Tak Berpisah. Cette chanson a été popularisée par Reza Artamevia, qui est l'une des chansons de son troisième album intitulé Keyakinan. La chanson Berharap Tak Berpisah, écrite par Denny Chasmala, sortie en single en 2002, est téléchargée sur YouTube en 2014. En 2016, la chanson Berharap Tak Berpisah, ou bien en français, J'espère qu'on ne se part pas, est recyclée par Shanti en single. Shanti a inséré de la musique disco dans cette chanson. Bon, chers auditeurs, voici Shanti, dont le titre est Berharap Tak Berpisah. Bonne écoute.
Kecewa karaku. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.